Interview.
2 jours.
On est bien content de vous retrouver dans nos studios ici, autour du collectif RAFU. On aimerait bien avoir un petit tour de présentation pour savoir qui vous êtes, d'où vous venez, et ensuite on précisera mieux qu'est-ce que c'est la ferme usine et votre champ d'action.
Ok, bah bonjour, je m'appelle Romane, j'ai 29 ans et je milite au sein du collectif Bretagne contre les fermes usines. J'habite en centre-Bretagne, en milieu rural, au plein milieu de plein de fermes usines, dans le village juste à côté de la 5e commune la plus émettrice d'ammoniac de Bretagne. Et du coup, pour préserver mon environnement et les conditions de travail des paysans et refaire société, je m'engage contre les fermes usines.
Toi, Fanch, d'où tu viens ?
Alors moi, je suis aussi membre du collectif Bretagne contre les fermes usines, comme Romane. On est plusieurs parce que la Bretagne, c'est vraiment une terre à fermes usines. Donc il faut un certain nombre de personnes pour s'élever contre tous ces projets-là. Et puis, notre collectif est aussi membre de la coalition nationale RAFU, dont il était question tout à l'heure. On en reparlera. Donc RAFU, la coalition des résistances aux fermes usines.
Donc moi je suis Annie et je milite au sein d'une association qui s'appelle ASPET, Association pour la sauvegarde et la protection de l'environnement en milieu thermal, parce que nous sommes menacés par une ferme usine de 1200 taurillons à Coussey-les-Bois dans la Vienne. Alors c'est perdu au milieu de nulle part, c'est bien pour ça que le porteur de projet le fait là, et c'est entre Châtellerault et La Roche-Posay, qui est une petite ville thermale. Et je suis venue à RAFU sous l'appel amical de Fanch, voilà. Non, pas du tout. Ça s'est trouvé comme ça. On est allé en Bretagne et moi, j'ai été affolée par le niveau de sinistre de la Bretagne. C'est-à-dire qu'effectivement, j'ai vu que ça, des fermes usines. Je me suis dit, si c'est comme ça chez moi dans 10 ans, avec les taurillons, bonjour, quoi. Donc, il faut y aller.
Et pourtant, la belle Bretagne où tout le monde veut déménager. S'il savait.
Si, qu'il déménage, comme ça, ouais. Ils lutteront avec nous.
Voilà.
Et toi, François, dis-nous quelques mots.
Alors, j'habite le centre-Bretagne également et je suis effectivement entouré de fermes-usines. Moi, ce qui m'interpelle, c'est les façons d'agir qu'on peut mettre en place. Et donc, j'aime bien le juridique, l'investigation. Et je trouve que ça fait partie des moyens de lutte contre ces fermes-usines, de retourner les propres données existantes sur ces fermes-usines que compile l'État et d'en faire quelque chose pour mobiliser et dénoncer l'ensemble des dégâts des fermes-usines sur nos milieux de vie, notre santé, les milieux naturels également, l'air, l'eau, etc. La liste est longue.
Oui. Et on va revenir un peu plus tard sur les formes d'action et vos moyens d'organisation. Mais pour le moment, est-ce qu'on peut préciser c'est quoi une ferme-usine ? Parce que l'expression claque, elle parle, on a une image qui arrive vite de quand on parle de ferme-usine ou d'usine à viande. Mais d'où vient cette expression-là ? Qu'est-ce qu'elle veut dire ? À quoi ça sert d'utiliser cette nouvelle expression-là ?
Alors... On parle en effet de ferme-usine, donc dans l'idée de l'usine, il y a l'idée de l'industrie, donc avec toutes les décisions qui seraient prises par les industriels plutôt que par les travailleurs et travailleuses qui sont dans le système agricole, les agriculteurs et les agricultrices. Et donc, nous, l'une des principales caractéristiques de ce qu'on appelle des fermes-usines, c'est leur dimension complètement hors-sol. Ça veut dire que dans une ferme-usine, la matière qui est importée pour nourrir les animaux ou même le bétail, ça vient de très très loin, par exemple d'Amérique du Sud. Ensuite, tout ce qui se passe au sein de l'usine ou de la ferme-usine, c'est principalement décidé par les grandes industries du monde. Ensuite, les animaux, leur bien-être est absolument pas respecté, ils sont élevés du béton, pas du tout relié au sol. Et ensuite, ce qui est produit est exporté hors des territoires. C'est un modèle où enfin, l'argent est concentré chez les industriels et les banques plutôt que par les agriculteurs. Donc il y a une vraie perte du sens du travail paysan. Et puis c'est surtout un modèle qui a des impacts terribles à la fois sur la santé des productrices, des riverains et des riveraines et des animaux. C'est un modèle qui a des impacts terribles sur l'environnement avec des émissions massives de méthane, de phosphate, d'azote, de fongicides, de pesticides. Donc c'est assez terrible. En Bretagne, les algues vertes, c'est un fléau environnemental majeur qui cause des morts. L'ammoniac, ça crée ça émet des particules fines qui créent 48 000 mortes par an. Donc ça veut dire que c'est des morts qui sont évitables puisque c'est un facteur environnemental sur lequel on pourrait jouer. Et puis ça a des impacts sociaux sur les agriculteurs et les agricultrices. C'est quand même, on parle d'un modèle où il y a deux suicides par jour d'agriculteurs et d'agricultrices. Donc ça a des impacts assez terribles. Et finalement, l'activité paysanne de production alimentaire n'est plus du tout au centre de l'activité, où tous les liens sociaux en milieu rural ne se font plus autour de cette dimension de production de l'alimentation. Et puis, tous les paysages ont complètement changé. Il y a une banalisation du paysage. Le rapport au vivant, on n'est plus du tout dans un rapport au vivant sensible, avec des relations interespèces, des relations humaines qui se font dans la joie et l'échange. On est sur quelque chose qui est tout est monétarisé, tout est vu comme une ressource marchande. Voilà, donc c'est ça pour nous le modèle des fermes-usines contre lequel on s'oppose.
Donc si je comprends bien, c'est un modèle qui est industriel, violent, capitaliste,
mortifère,
et qui a un ensemble d'impacts sur tous les pans de l'existence, que ce soit la santé des travailleurs, les paysages, les liens sociaux et le vivant, d'un point de vue biologique.
Et caractérisé par une production de masse, comme les automobiles de Monsieur Ford aux États-Unis. Pareil, on est dans le même processus.
Monoculture intensive, monoproduction intensive.
Et du coup, tous ces impacts-là, qui ont été décrits par Roman, on les retrouve dans les établissements, les usines à viande, effectivement, mais aussi, par exemple, dans les serres à tomates. Enfin, pour nous, les fermes-usines ne sont pas uniquement des industries qui concernent l'élevage. Voilà, c'est aussi tout ce qui concerne les cultures, puisqu'on retrouve un certain nombre de ces impacts aussi négatifs, néfastes, délétères, à propos des vastes étendues de monoculture. Hier, quelqu'un a pris la parole sous le chapiteau pour parler de ce qui se passait près de chez lui, du côté de Reims, où on a des hectares de céréales qui sont abreuvés de pesticides et de chimie, et puis qui ne fonctionnent... Le côté hors-sol aussi, dont parlait Roman, s'agissant des tomates aussi, c'est qu'elles poussent avec... elles sont complètement boostées,
avec des sels nutritifs.
Voilà. Les fermes-usines, c'est aussi le système qui comprend les méthaniseurs, puisque ces méthaniseurs accaparent les terres pour se nourrir, pour nourrir les installations, pour nourrir les méthaniseurs. Les terres nourricières qui sont détournées de leur vocation alimentaire pour les humains. Voilà, donc c'est vraiment un système. À côté des usines à viande, il y a aussi tout ce qui concerne donc les cultures et puis la méthanisation.
Donc c'est un terme qui permet d'englober différents pans de l'activité agro-industrielle.
Je pense que c'est ça le terme important qu'il y a derrière RAFU. C'est ce système-là, c'est vraiment le système agro-industriel.
Et si vous voulez voir si vous êtes concerné à côté de chez vous, sur notre site internet, on a une carte, le site internet de RAFU, on a une carte justement du système agro-industriel où on a répertorié tous les points où il y a des bouts d'engrenage de tout ce système. Donc comme ça, vous pouvez aller voir s'il y a quelque chose à côté de chez vous.
Donc c'est RAFU.com.
C'est résistanceaufermesusines.fr.
Ok, pour retrouver cette cartographie.
Voilà. Résistance avec S, O avec un X, ferme avec un S et usine aussi. C'est la production de masse. Voilà.
Et cette carte, elle a la particularité, vous pouvez voir à côté de chez vous, zoomer, et puis voir les différents pictogrammes qui apparaissent. Et en cliquant sur ces pictogrammes, vous accédez aux fiches administratif, c'est-à-dire à l'arrêté préfectoral, au rapport d'inspection, aux mises en demeure éventuellement, quand il y en a, et il y en a, c'est-à-dire quand les fermes-usines ne respectent pas la loi, les services de la préfecture parfois on va dire, tirent une sonnette d'alarme et font une mise en demeure sur quelques aspects, mais on est loin de répondre à tout. Donc cette carte permet d'accéder à, vraiment à des informations très pointues et des informations officielles. Donc ça ne veut pas dire qu'il y a tout. Mais c'est déjà une base d'informations importante. Et aujourd'hui, vous ne trouvez pas d'informations de ce type-là ailleurs. Ou alors, c'est très compliqué d'y accéder. Donc nous, nous avons créé une carte. En une page, vous accédez à l'ensemble des informations. Quoi.
Et je reviens à cette expression de ferme usine. Quand on utilise des nouvelles expressions comme ça, que moi en tout cas je connaissais pas, mais qui est peut-être qui date depuis longtemps, mais en tout cas il y a quelque chose d'un coup de force dans le langage. C'est souvent parce qu'il y a un manque à combler, il y a quelque chose à nommer en plus que le vocabulaire ordinaire. Donc on a déjà vu que cette expression-là, elle permettait de mettre en avant le caractère systémique de cette production agro-industrielle. Et qu'elle désignait pas seulement la viande, mais aussi toute la production de légumes ou bien de céréales sur un mode, sur un process industriel. Et est-ce que, Fanch, tu peux compléter en nous racontant comment s'est développée cette lutte autour des fermes-usines, comment c'est devenu un objet politique qui était dans la discussion, dans les groupes et tout ça, quoi.
Allez, donc j'ai ma voisine qui agite sa crécelle, parce que la crécelle, ça va être notre cri de ralliement bientôt, puisqu'on entend mener une opposition ferme-usine tonitruante et joyeuse. Donc, à vos crécelles. La crécelle, c'est pratique, ça se met dans la poche facilement pour sortir, voilà. Et on peut la sortir de sa poche à tout moment. Au départ, il y avait un certain nombre de mobilisations, enfin il y a toujours des mobilisations locales contre des projets de ferme-usine, quels qu'ils soient, un peu partout sur le territoire français. Alors, moi, je connais mieux ce qui se passe en Bretagne, puisque j'y vis. Les collectifs locaux, on en connaît en Bretagne, par exemple, contre des élevages industriels de porcs. Il y en a un du côté de Brest contre des serres à tomates. Voilà, c'est collectifs locaux développent un certain nombre de compétences et d'outils dans leur lutte. Alors, ils mobilisent les recours juridiques, ils mobilisent les rassemblements citoyens, ils mobilisent des actions de désobéissance, enfin voilà. Et on s'est dit que c'était intéressant de pouvoir mutualiser toutes nos compétences, toutes nos connaissances, toutes nos forces pour créer un autre rapport de force au niveau national dans cette lutte. Donc, on a décidé de créer la coalition des RAFU, des résistances aux fermes-usines. L'intérêt...
visible, en fait. Parce qu'elles existaient, excuse-moi, Fanch. Parce que ces luttes existent depuis longtemps, localement, mais souvent elles sont disséminées sur les territoires et il n'y avait pas de lien qui existait. Et là, c'était vraiment important de créer ce lien et de créer une forme de convergence entre l'ensemble de ces luttes pour dépasser le niveau local et arriver sur le système. Et c'est vrai que c'est important de... On a fait attention à ne pas cibler les personnes qui sont exploitantes de ces fermes-usines, parce que c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est une structure, c'est un modèle économique qui est en jeu et piloté par des groupes industriels, et les décisions sont prises bien loin de l'endroit où est la ferme-usine, généralement.
Vous avez voulu rendre visibles des luttes déjà existantes.
Oui.
Et ensuite...
Tout à fait. Et puis, quand on se mobilise quelque part contre un projet de ferme-usine, de création ou d'extension de ferme-usine, l'idée, ce n'est pas que le porteur de projet aille installer son projet ailleurs. Les fermes-usines, c'est ni ici ni ailleurs. Voilà. Donc, créer une coalition nationale, c'est aussi pour avoir cette vigilance sur l'ensemble du territoire. Je dis ça parce que concernant les élevages de volailles, par exemple, on s'est pas mal battu en Bretagne contre les poulaillers industriels. Et maintenant, il se trouve que dans l'Yonne, par exemple, des industriels comme Plucon cherchent à installer des poulaillers industriels en nombre. Donc, c'est pas ça, enfin, voilà. Donc, on veut vraiment dire que le système, on va se battre à notre échelle locale, mais aussi à une autre échelle, à l'échelle nationale. On veut interpeller aussi les politiques.
Oui, et voire international, parce que quand tu dis plus con, c'est quand même c'est une entreprise internationale hollandaise, quoi. Donc ça dépasse même le cadre, excuse-moi, Franche, mais du national, de notre hexagone.
Voilà. Oui, hein, tout à fait. Et donc là, ce qu'on essaye de structurer dans notre résistance en ce moment au niveau de RAFU, au niveau national, c'est dans le cadre de la loi d'orientation sur l'avenir agricole qui doit être débattue au Parlement à l'automne prochain, on veut inscrire l'idée d'un moratoire sur les fermes-usines. Un moratoire, qu'est-ce que ça veut dire ? On suspend pour le moment, on suspend les autorisations accordées aux créations ou aux extensions de fermes-usines et on réfléchit collectivement à l'échelle de la société, qu'est-ce qu'on veut comme modèle de production alimentaire et donc comme modèle agricole. Parce que pour le moment, on ne nous demande pas notre avis. Voilà, ce qui vient dans nos assiettes, on ne le choisit que très peu. Or, c'est quelque chose qui concerne tout le monde. On a beau nous dire, mais vous n'y connaissez rien, il n'y a pas de ferme-usine en France, etc. Si moi, je respire de l'ammoniac, c'est aussi mon problème. Voilà. Donc, les pollutions induites par ce système ferme-usine, elles concernent tout le monde. Et c'est à tout le monde de mettre son grain de sel là-dedans sur le mode de production alimentaire.
Voilà. Est-ce que vous avez un ou deux exemples de lutte locale ou bien de ferme-usine que vous connaissez particulièrement et...
Oui. Coussay-les-Bois est donc un village de un peu plus de 1000 habitants qui est situé entre Châtellerault et La Roche-Posay. Et sur ce territoire, un hobereau local a décidé de construire une ferme-usine de 1200 taurillons. Donc, trois bâtiments avec panneaux solaires sur le toit. Ça fait 15 000 carrés et on va mettre dessous 1200 taurillons avec méthaniseur. Fort risque de pollution de la nappe phréatique qui est en dessous, donc qui est à 2,50 m, hein, parce que même avec les méthaniseurs, il est impossible qu'il n'y ait pas des fuites de déjection et que la nappe phréatique, c'est là-dedans qu'on a un forage pour alimenter en eau potable le village de Coussay-les-Bois, mais aussi de Méré et de Lézigny qui sont à proximité. Voilà. Donc, cette implantation, on est dessus depuis 10 ans quand même. Le premier porteur de projet a commencé en 2014. La municipalité de Coussay, à l'époque, n'a pas voulu signer les permis de construire ni quoi que ce soit. Le préfet a repris la balle, c'est lui qui a signé. Et le préfet actuel, qui est un ami personnel du président Macron, dit que si lui avait été là, il n'aurait peut-être pas signé. Maintenant qu'il est là, il est là pour faire tourner cette ferme-usine et pour faire aussi accessoirement des bassines sur le Clain, qui sont un autre volet de la question de l'eau. Hein, pollution et accaparement sont aussi des...
Tu peux en dire plus sur ce lien entre l'eau.
Je vais faire une petite infidélité à mes copains et copines de RAFU, vous m'excuserez, mais on n'a pas mis tous nos œufs dans le même panier, aspect. On s'est mis avec RAFU, on y est, et puis on est aussi avec le convoi de l'eau qui part de Sainte-Soline, et qui est... Sainte-Soline, je pense que ça doit parler quand même à pas mal de monde, hein, où il y a effectivement une détermination à lutter contre ce qu'on appelle les bassines, et où l'accaparement de l'eau se fait au profit de quelques irrigants avec 70% de fonds publics quand même. Donc le convoi de l'eau, c'est un projet qui consiste à partir de Sainte-Soline à remonter entre le 18 août et le 26 ou 27 août et qui va cheminer avec vélo et tracteur jusqu'à Orléans notamment pour demander des comptes à l'agence de l'eau, le bassin, le même. Et c'est pour ça que ça nourrit aussi. C'est le bassin Bretagne Noire, hein, c'est le même, la même agence de l'eau qui gère tout ça et qui, effectivement, a accordé des fonds à des irrigants pour faire des bassines. Et donc, accaparement et pollution de l'eau sont aussi des thèmes qui sont largement concernés dans ces histoires de ferme-usine parce que ce sont des projets énergétivores et consommateurs en eau d'une manière qui interpelle quand même.
Voilà. Oui, c'est vrai que quand on regarde les choses du point de vue de l'eau ou bien de tous les éléments vivants, notre géographie se redessine. On ne pense plus en termes de municipalité ou de département.
Et puis tous les bassins versants qui collectent les eaux de pluie, qui à un moment, tout est dans tout. Hein,
Voilà, tu as envie de rajouter quelque chose, François ?
Ah bah, j'ai envie de rebondir sur la question de l'eau, parce que en Bretagne, justement, bah, un exemple local aussi, c'est sur la commune de Langouatte, dans le Trégor. Là, il est question d'une extension d'une porcherie existante, avec extension de son plan d'épandage. Notamment, le plan d'épandage se trouve en amont d'une zone de captage. Et il y a une partie de l'épandage qui se fait dans la zone en amont de, et dans ce périmètre de protection rapprochée du captage d'eau qui, lui, en Bretagne, on n'a pas de ressources souterraines de l'eau, mais qui est, donc ce captage va servir à l'alimentation humaine, quoi, c'est-à-dire l'eau du robinet qui est censée être potable, quoi. Donc on retrouve des thématiques assez proches sur ce projet d'extension de ferme-usine existante, projet porcin. Et puis il y a également un sujet, le sujet de la pollution de l'air par l'ammoniac. Donc c'est un sujet que l'administration essaye de prendre en compte. Je dis bien essaye de prendre en compte. Et le porteur de projet on lui a suggéré de mettre en place un lavage de l'air. C'est-à-dire que l'air étant pollué par l'ammoniac à l'intérieur de l'élevage, qui est un lieu fermé, eh bien, il y a un système de lavage de l'air où l'air passe dans de l'eau, etc. Donc c'est un système qui va diminuer les quantités d'ammoniac qui sont émises, pour une partie, mais qui va polluer de l'eau en plus et qui va nécessiter de recourir à la ressource en eau de façon beaucoup plus importante que... Là, l'eau est utilisée à la fois pour les animaux, mais également pour ce lavage de l'air. Donc on n'en sort pas. C'est-à-dire que même si on diminue la quantité d'ammoniac avec cette technique-là, c'est une technique énergivore, c'est une technique qui consomme de dans la ressource en eau, de l'eau propre, qui la rend impropre et qui la redistribue et qui la remet dans le circuit des eaux du plan d'épandage qui sont en amont du captage d'eau. Donc la solution, elle n'est pas là, quoi. Enfin, c'est une fausse solution. La vraie solution, c'est la diminution du cheptel, par contre. C'est-à-dire la déconcentration de l'élevage, la diminution du nombre d'animaux. En Bretagne, on a des chiffres qui parlent, qui claquent, on va dire, hein, 3,7 millions d'habitants en Bretagne et 14 millions de porcs en Bretagne sur ce même territoire, quoi.
Tu viens de suggérer que la diminution du cheptel pouvait être un meilleur mode d'organisation écologique et sociale. Et justement, je voulais savoir, face à cette pollution qui touche tous les aspects de l'existence, comment RAFU propose de s'organiser, de lutter. Vous avez évoqué un exemple breton, un exemple dans la Vienne. Quelles sont les pistes que la coalition RAFU propose ?
Pour l'instant, l'objectif donc de la coalition RAFU, qui est au niveau national, c'est l'organisation d'un moratoire contre les fermes-usines. Donc, comme Fanch l'a dit, c'est une suspension de l'acte des autorisations d'agrandissement et de création de nouvelles fermes-usines, le temps qu'on ait démocratiquement décidé tous et toutes ensemble de ce qu'on voulait pour le système agricole. L'objectif, c'est que lors de ces discussions et pour décider démocratiquement ensemble, on ait accès à l'ensemble des données, qu'on prenne des décisions qui soient éclairées et qui soient raisonnées et qui soient surtout prises toutes et toutes ensemble. Donc nous, notre espoir, c'est qu'à l'issue de ce moratoire, pour lequel on se bat au quotidien, en fait, le modèle agricole change par décision des citoyens et des citoyennes. Mais on n'obtient pas un moratoire comme ça. Pour obtenir un moratoire, on doit montrer qu'il y a une mobilisation collective au niveau national. Et donc, on organise le 7 octobre une journée nationale d'action décentralisée contre le modèle agro-industriel et contre les fermes-usines. Donc, l'idée, c'est que chacun, chacune, à côté de chez soi, se rapproche de collectifs qui sont déjà en lutte contre l'agro-industrie ou en tout cas ou en créent pour l'occasion et organise une action contre les fermes-usines ou contre l'agro-industrie. Et ensuite, l'idée, c'est de pouvoir avoir les contenus médiatiques de toutes ces actions pour pouvoir dire au gouvernement, regardez, partout en France, des citoyens et des citoyennes s'opposent à ce modèle agricole et veulent quelque chose d'autre et on va créer une pression citoyenne pour s'assurer qu'on soit entendu et mettre l'État devant ses responsabilités parce que l'État, aujourd'hui, ne prend pas soin de notre santé. Il échoue dans ses missions qui sont celles de protection des populations. Et ça, c'est juste plus possible. Et donc, on doit se mobiliser toutes et tous ensemble par cette journée d'action le 7 octobre et par l'obtention d'un moratoire pour justement créer un changement à l'échelle systémique.
Un agenda qui a l'air bien calé et chargé aussi. Est-ce que vous avez des ressources, enfin des endroits pour retrouver toutes ces informations ? Vous avez parlé d'un site internet tout à l'heure. Est-ce que c'est le même pour prendre contact et tout ça ?
Oui, donc c'est le site résistance aux fermes usines, tout au pluriel, .fr. Et effectivement, sur ce sujet-là, il y a aussi des convergences. C'est-à-dire que quand on s'oppose au système des fermes usines, on défend en même temps l'agriculture paysanne territorialisée, parce qu'elle, elle a les réponses que nous, on réclame. C'est-à-dire de travailler en circuit court, de travailler sur des produits de qualité, d'avoir un moindre impact au niveau de la santé, au niveau de l'environnement, un moindre besoin en ressources, en eau, etc. On a vraiment une réponse qui existe, qui a fait ses preuves. On peut rappeler un chiffre. Moi, j'ai été impressionné en écoutant Via Campesina. Le chiffre qui...
Via Campesina, donc, qui est un regroupement international de paysans et paysannes.
De lutte paysanne, effectivement. Et il rappelle le chiffre que 70% de l'alimentation des populations mondiales viennent du système paysan. Donc, qu'on arrête de nous faire croire que l'agro-industrie va nourrir le monde. C'est pas le cas. C'est déjà pas le cas et ça ne pourra pas être le cas. La ressource étant limitée, la ressource en eau, la ressource des territoires, etc. Enfin, voilà, il y a plein de blocages et d'aberrations que l'on dénonce. Donc, on sait que le système paysan, lui, a les réponses. Et il a fait ses preuves depuis l'origine des temps, je dirais.
Et merci François de ce mot de la fin. Et on arrive à la fin de l'émission. Est-ce que vous voulez rajouter chacune quelque chose d'important à vos yeux qu'on n'a pas eu le temps d'évoquer ?
Alors moi, je voulais juste dire, pour compléter ce que vient de dire François, que souvent, nos amis de la Confédération paysanne sont avec nous dans les collectifs. Hein, et qu'ils ne sont pas là seulement pour leur tracteur, ils sont là parce qu'ils défendent un modèle effectivement de vie, de paysannerie et je dirais de consommation, parce que Romane a dit il faut le prendre sur l'aspect citoyen, mais je pense aussi qu'il faut le prendre sur l'aspect consommateur, c'est-à-dire qu'on est tous aussi un peu responsables de ce qu'on met dans notre assiette. Voilà.
Moi je voulais revenir sur le 7 octobre, j'ai envie de dire à tout le monde, collectif organisé ou particulier, emparez-vous de cette journée. Vous inventez une action, quelle qu'elle soit, une petite action toute simple, une action sophistiquée, une action rigolote, une action de désobéissance, ce que vous voulez. Mode d'emploi, vous pouvez aller voir d'abord sur la carte des fermes usines publiée sur le site RAFU, s'il y a quelque chose près de chez vous. Et ensuite, vous nous en faites part, vous envoyez un petit mail à RAFU, parce qu'on va justement montrer tout ce qui va se faire ce jour-là, toute la diversité de nos imaginations créatives pour ce jour-là, pour s'opposer. Voilà, les collectifs, les particuliers, tout le monde.
Et moi, je voudrais juste rajouter qu'il n'y a rien de plus joyeux que de militer et de lutter avec des copains et des copines qui ont envie de créer le monde qu'on a envie de voir advenir et qu'en fait, ça apporte beaucoup, beaucoup de joie et beaucoup, beaucoup d'amour que de se dire « Vas-y, aujourd'hui, je construis le monde dans lequel j'ai envie de vivre ».